France Inter. Les admirations littéraires de
Ariane Ascaride. Aujourd'hui, je vais vous lire donc des extraits de trois romans d'un auteur que j'aime profondément, qui m'accompagne depuis très très longtemps, qui s'appelle Joyce Carol Oates. Alors Joyce Carol Oates, c'est quelqu'un qui raconte l'humanité d'une manière ciselée. On pourrait croire que presque des fois c'est chirurgical, mais en fait, ça vous touche au fond de l'âme. Elle a une manière de raconter les choses qui est tellement bouleversante, alors qu'elle n'est jamais dans le pathos. Jamais. Joyce Carol Oates, évidemment, c'est une femme, et évidemment, elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des femmes, du ressenti des femmes, du ressenti, mais au plus profond d'elles-mêmes, dans leur corps. Elle parle beaucoup des corps. Qu'est-ce qui se passe quand les émotions traversent les femmes? Qu'est-ce que ça fait dans leur corps? Et c'est assez étonnant, quoi. C'est pour ça que je parlais de chirurgical, un peu. Donc, je vais vous lire des extraits d'un roman qui s'appelle Les Chutes, de La fille du fossoyeur et de Blonde.
Les admirations littéraires d'Ariane Ascaride sur France Inter.
Je vais commencer par Les Chutes. Alors ça s'appelle Les Chutes de Joyce Carol Oates parce que le roman commence à côté des chutes du Niagara Et le roman commence avec une puissance... J'ai pas beaucoup lu de livres qui ont une telle puissance dès le début. C'est des jeunes mariés et ça commence très mal. La mariée. Lorsqu'elle découvrit le mot énigmatique que son mari lui avait laissé appuyé contre un miroir de la chambre à coucher de leur suite nuptiale du Rainbow Grand Hotel à Niagara Falls, État de New York, Aria était mariée depuis 21 heures. Lorsque le même jour, en début d'après-midi, elle apprit de la police de Niagara Falls qu'un homme ressemblant à son mari, Gilbert Erskine, s'était jeté dans les Horseshoe Falls, tôt ce matin-là, et avait été emporté, disparu sans laisser de traces jusqu'à présent. Au-delà des rapides du Trou du Diable, ainsi qu'était appelée cette attraction naturelle en aval des chutes, elle était mariée depuis un peu moins de 28 heures. Tels étaient les faits bruts, cruels. Je suis une mariée devenue veuve en l'espace d'un jour. Aria se frappa soudain le visage de ses deux poings. Elle avait envie de marteler, meurtrir ses yeux qui en avaient trop vu. Restait une consolation jusqu'à ce que le cadavre de Gilbert Erskine soit retrouvé et identifié. Sa mort était théorique et non officielle. Aria n'était pas encore une veuve, mais toujours une jeune mariée. Se réveillant ce matin-là pour affronter le fait grossier et réfutable qu'elle, qui avait dormi seule toute sa vie, était de nouveau seule le lendemain du jour de ses noces. Se réveillant seule, bien qu'elle ne fût plus mademoiselle Aria Juliette Littrell, mais bien madame Gilbert Erskine. Se réveillant seule, au même instant elle sut, mais sans parvenir à croire, sa fierté l'en empêchait, sans se permettre de penser « Je suis seule, non ?» Un tintamarre de cloches nuptiales l'avait suivi jusque-là, des centaines de kilomètres. Des cercles de douleur lui enserraient le crâne comme un étau. Elle avait les intestins dérangés comme si les viscères même étaient corrodés, en décomposition. Dans ce lit inconnu qui sentait les draps moites, la chair moite et le désespoir, où donc était-elle ? Quel était le nom de cet hôtel où il l'avait emmenée? Un paradis pour jeunes mariés. Niagara Falls, c'était la capitale mondiale de la lune de miel. Un pouls dans sa tête battait si violemment qu'elle ne pouvait réfléchir. Mariée depuis trop peu de temps pour connaître grand-chose au mari, mais il lui semblait plausible. Elle se le disait comme une enfant effrayée se raconterait une histoire afin d'écarter le danger que... Gilbert se fut simplement glissé hors du lit pour se rendre dans la salle de bain. Elle se contraignit à murmurer « Gilbert ?» comme on murmurerait d'une voix endormie à son époux en se réveillant « Gilbert, où es-tu ?» Pas de réponse. À travers ses yeux mi-clos, elle vit personne dans le lit à côté d'elle. Un oreiller de travers, une taie de lin froissée, un drap rebattu avec soin, semblait-il. Mais personne. Aria se força à ouvrir les yeux. Une pendule allemande en céramique sur une tablette de cheminée et des chiffres dorés brillants auxquels l'espace de quelques pénibles secondes, les yeux plissés d'Aria ne trouvèrent aucun sens. Puis le cadran de la pendule indiqua 7h10. Au dehors, le brouillard s'estompait. Il semblait que ce fût le matin et non le crépuscule. Aria n'avait donc pas gâché la journée. Elle n'avait pas perdu son mari. Pas si vite. Aria frappa timidement à la porte de la salle de bain. Si Gilbert était à l'intérieur, elle ne tenait pas à l'interrompre. La porte n'était pas verrouillée. Avec précaution, elle l'ouvrit. Un miroir rectangulaire fixé au dos de la porte pivota vers elle, telle une caricature railleuse. Une femme, au teint jaunâtre, échevelée, dans une chemise de nuit déchirée. Oh, mon Dieu! Mais la salle de bain était vide. Une énorme baignoire en porcelaine aux pieds griffus, vide. Gilbert avait-il pris un bain, une douche? Il n'y avait pas trace d'humidité dans la baignoire. La pièce sentait franchement le vomi et plusieurs des épaisses serviettes éponges blanches avaient servi. L'une d'elles gisait sur le sol. Au-dessus de l'élégant lavabo encastré, la glace en cœur était tachée d'éclaboussures. Aria ramassa la serviette sale, la rangea. Elle se demanda si elle reverrait jamais Gilbert Erskine. Dans la glace flottait une femme fantôme. Mais elle évita son regard pitoyable. Elle se demandait si elle n'avait pas tout imaginé. C'était étrange d'être aussi seule dans cette suite à la décoration absurde. Même la voix d'Aria faisait seule. Elle avait supposé que le mariage serait différent. On commence par un souhait, puis le souhait se réalise et on ne peut plus y mettre fin. Où était le chez-soi d'Aria d'ailleurs? Il devait s'installer à Palmyra, dans une haute maison de briques austère attribuée à Gilbert, en même temps que sa charge de pasteur. Elle n'avait pas vraiment réfléchi à cette résidence. Elle n'allait pas le faire maintenant. Maintenant. Où était maintenant? Niagara Falls. Quelle idée! Des plaisanteries vulgaires. Comme si Aria et Gilbert faisaient tout pour être des nouveaux mariés américains type. Elle décida d'appeler la réception. Mais lorsque la téléphoniste dit d'un ton enjoué « Bonjour, Madame Erskine, que puis-je pour vous ?» Aria resta muette. Il faudrait qu'elle s'habitue à ce qu'on l'appelle Madame Erskine. D'un ton humble, elle dit « Je me demandais juste quel temps ?» Il faisait. Je ne sais pas quoi mettre ce matin. La standardiste eut un rire amical bien rodé. Nous avons beau être en juin, madame, vous êtes à Niagara Falls. Habillez-vous chaudement jusqu'à ce que le brouillard se lève. Elle marqua une pause pour produire son effet. S'il se lève. Aria fit couler l'eau des gros robinets de cuivre jusqu'à embuer toutes les glaces de la salle de bain. Un air chaud, délicieux, suffocant et parfumé, et une eau si brûlante qu'elle pouvait le supporter pour laver la sueur séchée et les autres saletés de son corps, les odeurs de son corps. Aria laissa glisser sur le carrelage sa chemise de nuit en soie ivoire aux larges bretelles et au corsage de dentelle. Elle portait des taches de mucosité séchées et des taches sombres. Pas question de regarder. Par bonheur, des nuages de vapeur lui brouillaient la vue. Avec prudence, elle entra dans la baignoire aux pieds griffus qui n'étaient encore qu'en partie remplis. Oh, l'eau était bouillante. Mais elle la supporterait. Étendue dans la baignoire, alors que l'eau perdait sa chaleur vaporeuse et commençait à se couvrir d'une mousse de savon, Aria se mit à pleurer en silence. Des larmes lui piquèrent les yeux, déjà douloureux, roulèrent sur ses joues et tombèrent dans l'eau. Elle avait imaginé que pendant qu'elle prendrait son bain, elle entendrait la porte de la suite s'ouvrir et se refermer, et la voix de Gilbert. « Aria, bonjour !» Mais elle n'avait entendu aucun bruit de porte. Elle n'avait pas entendu la voix de Gilbert. Elle pensait à ce jour, bien longtemps avant sa rencontre avec Gilbert Erskine, alors qu'elle était encore au lycée, où elle s'était enfermée dans la salle de bain et examinée dans un petit miroir. Elle avait failli s'évanouir. C'était aussi terrible que de donner son sang. Elle avait vu entre ses cuisses minces, sous le buisson bouclé et humide des poils pubiens, une curieuse petite excroissance charnue pareille à une langue, ou à l'un de ces organes glissants que l'on prend soin d'ôter d'un poulet avant de le rôtir. Et alors qu'elle regardait avec une fascination horrifiée, elle remarqua un petit trou pincé à la base de cette excroissance, plus petit que son nombril. Comment l'engin d'un homme pouvait-il se loger dans un espace aussi minuscule? Puis encore, comment un bébé pouvait-il sortir d'un orifice aussi minuscule? Cette révélation l'avait laissée défaillante de terreur, d'appréhension, de dégoût pendant des heures. Peut-être ne s'en était-elle pas encore remise. Il était là, le message. C'est visible comme un cri appuyé contre le miroir de la coiffeuse. Aria ne comprenait jamais comment ou pourquoi elle ne l'avait pas remarqué plus tôt. Sur le papier à en-tête rose de l'hôtel, tracé d'une écriture hâtive, cribouillée, dans laquelle Aria n'aurait pas tout de suite reconnu celle de Gilbert, il y avait ces mots. « Aria, je regrette, je ne peux pas. J'ai essayé de t'aimer, je vais où ma fierté doit me conduire, je sais. » Tu ne peux pas me pardonner, Dieu ne me pardonnera pas. Je nous libère ainsi tous les deux de notre serment. Sur le tapis, au-dessus d'un stylo en argent marqué d'un monogramme, il avait dû être jeté en hâte sur la coiffeuse et roulé sur le sol. Très longtemps, 5 minutes, 10. Aria resta pétrifiée, tenant le message d'une main tremblante, le cerveau vide. Puis elle se mit enfin à pleurer, de vilains sanglots rauques qui la déchirèrent. Comme si, en fin de compte, elle l'avait aimé. Donc ça, c'est un extrait du livre de Joyce Carol Oates, Les Chutes. C'est vraiment le tout début du roman et qui commence comme ça, très très fort. Et moi, je vous engage à lire la suite parce que c'est vraiment incroyable, l'histoire de cette femme qui est délaissée dès son premier jour de mariage.
Je me taille des costards, me donne des noms d'oiseaux. Sous l'empire de l'état vivant, moi-même sur le dos. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour. Ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude, faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience, butiner les fleurs du mal, avaler des sabres, des couleuvres. J'ai eu des périodes, mais c'est la dernière chance des dieux. Un jour, je serai de nouveau à genoux. J'aurai soif d'amour. Mais ce soir, ce soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonfler les rangs de la béatitude, faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience. soir, c'est la trêve des confiseurs. Je descends sur mon banc, gonflé les rangs de la béatitude. Faire face au soleil qui m'appelle gentiment, ma petite abeille, mon gouffre de conscience.
Les admirations littéraires d'Ariane Ascaride.
Sur France Inter.
Je voudrais lire un tout petit extrait assez court de ce roman qui s'appelle Blonde et qui en fait est un travail que Joyce Carol Oates a fait sur Marilyn Monroe. Et c'est un extrait qui raconte l'audition, une audition. Voilà. Donc le réalisateur demande à la blonde Marilyn Monroe de commencer son audition. Il y a 6 à 8 personnes dans la salle de répétition, tous des hommes. Chaises pliantes, stores baissés contre la lumière vive du soleil. Pas de tapis sur le sol, et ce sol est jonché de mégots et de détritus. Et la fille étonne tout le monde en s'y allongeant calmement dans sa robe de rayonne blanche chatoyante, repassée avec soin. Jupe étroite, ceinture de tissu, encolure bateau, ne découvrant que le haut de ses seins crémeux. Avant que le réalisateur comprenne ce qu'elle a en tête et que quelqu'un puisse l'arrêter. Par terre, sur le dos, les bras étendus, la fille explique avec sérieux au réalisateur que dans sa première scène, le personnage est endormi sur un canapé et qu'elle doit donc être étendue par terre. C'est ainsi qu'elle a répété. La première fois que l'on voit Angela, elle dort. C'est capital. On la voit par les yeux d'un homme plus âgé qui est son oncle. Un homme marié, un avocat. On ne voit Angela que par ses yeux et plus loin dans le scénario, on la voit par les yeux d'agents de police, des yeux d'homme, exclusivement. Le réalisateur contemple stupéfait cette blonde platinée allongée par terre à ses pieds. M'expliquer le personnage à moi, le réalisateur. Elle était devenue aussi peu timide qu'un petit enfant entêté, un enfant agressif. Il en oublie d'allumer le cigare cubain qu'il a sorti de son emballage et coincé entre ses dents. Un silence absolu règne dans la salle de répétition tandis que Marilyn Monroe ferme les yeux, imite l'immobilité du sommeil. La respiration profonde, lente, régulière, sa cage thoracique et ses seins montent, retombent, monte, retombe, bras satinés et jambes gainées de nylon, étendus dans l'abandon d'un sommeil profond, comme l'hypnose. À quoi pensent les hommes en contemplant le corps d'une belle fille endormie? Yeux fermés, lèvres légèrement entr'ouvertes. Cela ne dure que quelques secondes, mais paraît beaucoup plus long. Et le directeur pense: cette fille est la première sur la vingtaine d'actrices qu'il a auditionnées, dont la brune, à qui il donnera probablement le rôle, à avoir saisi la signification de ce début de scène. La première qui semble avoir réfléchi à peu près intelligemment au rôle, qui a lu le script en entier, ou le prétend, et s'en est formé une sorte d'opinion. La fille ouvre les yeux, se redresse lentement en clignant des yeux étonnés et dit dans un murmure « Oh, j'ai dû m'endormir. » Joue-t-elle ou s'est-elle réellement endormie? Tout le monde est mal à l'aise. Quelque chose d'étrange se passe. Avec une naïveté ou une habileté apparente, la fille s'adresse au réalisateur et non à l'assistant qui lit le texte de Louis Calerne, faisant ainsi de lui, qui a toujours entre ses dents son cigare cubain éteint, son oncle d'amant. C'était aussi franc et intime que ses doigts sur mes couilles, J'en garderai l'impression que cela s'était effectivement produit. Elle ne jouait pas, elle ne savait pas jouer. Mais était-ce si sûr ? 11 ans plus tard, le réalisateur travaillerait avec Marilyn Monroe sur le dernier film de sa carrière. Et il se rappellerait cette audition et ce moment. Tout était là dès le début, son génie pourrait-on dire, sa folie. À la fin de la scène, le réalisateur a retrouvé un certain sang-froid et réussi à allumer son cigare. En réalité, il ne pense pas que la jeune cliente de Shane est un génie. Il l'observe avec cette expression indéchiffrable qu'il a mise au point, lui que les autres regardent toujours en espérant lire ses pensées. Dans l'immédiat, cependant, il ne sait pas ce qu'il pense. Il ne consultera pas ses assistants. Il n'est pas un homme à se ranger à l'avis d'inférieur. Il dit donc à la fille « Merci, Mademoiselle Monroe. Très bon. » L'audition est-elle terminée ? Le réalisateur tète son cigare, feuillette le script posé sur ses genoux. C'est un moment tendu. Est-il plus cruel de lui demander de lire une autre scène ou ferait-il mieux d'interrompre tout de suite l'audition et d'expliquer à Shane, qui regarde tout des coulisses, visage tragique de gargouille et yeux limpides d'amour, que Marilyn Monroe est certainement un talent inhabituel et saisissant, très belle bien entendu, mais ne convenant pas tout à fait pour le rôle qui demande une brune exotique et pas une blonde distinguée. Doit-il, peut-il décevoir Shane ? Qui lui a rendu un service et a permis à Sterling Hayden d'échapper à la liste noire ? Quels sont les liens exacts de Shane avec l'HUAC et les stratégies permettant à des individus d'être blanchis de toute accusation de subversion sans témoigner à Washington et risquer leur carrière ? Il vaut mieux ne pas contrarier Shane, le réalisateur le sait. Il réfléchit à cela et rumine, habitué à un silence respectueux quand la fille dit soudain de cette voix voilée de bébé « Oh, je peux mieux faire que ça. Laissez-moi recommencer, s'il vous plaît. » Il est si étonné de son audace qu'il en laisse presque tomber son cigare. Voilà, ça c'est ce livre absolument magnifique que Joyce Carol Oates a écrit sur Marilyn Monroe et qui s'appelle Blonde. Et là, je vais vous lire le dernier extrait qui est un extrait de La fille du fossoyeur, toujours écrit par Joyce Carol Oates, et qui est une histoire en fait d'une grande violence qui raconte comment une petite fille dont on va s'apercevoir qu'elle est fille de nazi qui s'est enfuie en Amérique et qui va devenir grande, va continuer à subir la violence des hommes. Voilà, je dirais juste ça comme ça. Mais je vous conseille vraiment de lire ça. Elle bordait Nailey qui s'accrochait à elle. Ne pleure pas. Essaie de ne pas pleurer. Si tu dois pleurer, cache ton visage dans l'oreiller. Ça embête papa de t'entendre pleurer. Il t'aime tellement. Il reste couché. Ne sors pas de ce lit, quoi que tu entendes, Nailey. Reste au lit. Ne te lève pas. C'est promis. Nailey était trop agitée pour promettre. Rebecca éteignit la lampe de chevet et sortit. Depuis le retour de Tignor, la lampe lapin ne restait plus allumée toute la nuit. La radio n'était plus sur la pluie de la fenêtre de Nailey. Mais dans la cuisine, où quand Tignor était là, on ne l'allumait qu'une fois par jour, pour les nouvelles du soir. Rebecca avait l'intention de dévier Tignor, de retourner dans le séjour pour éviter qu'il n'entre dans leur chambre. Mais Tignor était déjà là, les habits en désordre, le regard furieux, une bouteille de bière écumeuse au poing. « Tu le caches, hein ?» Tu lui apprends à avoir peur de son père. » Rebecca tenta d'expliquer qu'elle avait couché Nailey parce que c'était l'heure qu'il aurait dû être couché depuis longtemps. « Tu l'as monté contre moi, c'est ça ? Pendant tout ce temps ?» Rebecca secoua la tête. « Tu l'as monté contre moi, c'est pour ça qu'il a tellement peur de moi, peureux comme un chien battu. Je n'ai jamais levé la main sur lui, moi. » Rebecca ne faisait pas un mouvement, le regard rivé sur le sol. Ni oui, ni non, ni résistance, ni défi. Elle savait qu'elle devait jouer la comédie, s'humilier encore une fois pour protéger l'enfant. Elle ne se préoccupait plus d'elle-même. Elle était si fatiguée. Elle ne serait pas une de ces mères où on en entendait parler à Milburn quelquefois, qui échouaient à protéger leur enfant. Cela semble toujours si évident et si simple. Pourquoi n'a-t-elle pas emmené les enfants? Pourquoi n'a-t-elle pas couru chercher de l'aide? Pourquoi avoir attendu qu'il soit trop tard? Mais maintenant que cela lui arrivait, elle comprenait cette étrange inertie et ce désir que l'orage éclate, que la fureur masculine se déchaîne et s'épuise, car Tignor était complètement ivre, il titubait. Ses yeux injectés de sang avaient une expression blessée, honteuse. Mais la fureur le possédait et ne la lâcherait pas tout de suite. Tignor avait posé la bouteille de bière par terre, sans remarquer qu'il l'avait renversée. Il empoigna Rebecca. Il tira sur son pantalon de velours noir, usé aux genoux et sur les fesses. C'était sa tenue d'usine, elle n'avait pas eu le temps de se changer. Il fourrait des billets dans le pantalon, dans ses sous-vêtements, entre ses jambes, malgré ses efforts pour se dégager. Il lui faisait mal, ses gros doigts griffaient son vagin, mais il riait. Et Rebecca voulait penser, il n'est pas en colère s'il rit. Il ne me fera pas de mal s'il rit. Elle espérait désespérément que Tignor n'entendrait pas les appels implorants de Nailey. Il avait cessé de lui faire mal et elle se disait que c'était peut-être fini. Quand il y eut une brusque explosion de lumière sur le côté de sa tête, elle se retrouva soudain par terre, assommée. Quelque chose l'avait frappée. Elle ne se rendait pas clairement compte que cela avait été un point d'homme, ni que l'homme qui l'avait frappée était Tignor. Debout, au-dessus d'elle, il a poussé du pied, du bout de sa chaussure entre ses jambes, la faisant se tordre de douleur. « Hé, poupée, tu aimes ça, non ?» Rebecca était trop ralentie, trop hébétée pour réagir, comme Tignor le souhaitait. Il perdit patience et s'assit à califourchon sur elle. Et maintenant, il était vraiment en colère. Il l'injuriait, tellement en colère. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne lui avait pas résisté. Elle avait essayé de ne pas le provoquer. Et pourtant, il lui entourait le cou de ses mains juste pour lui faire peur, lui donner une leçon, oser lui faire honte devant leur fils. Il lui cogna la tête contre le plancher. Encore, encore. Et Rebecca suffoquait, perdait connaissance. Elle sentait pourtant un air froid à travers les fentes du plancher, montant de la cave au-dessous. Et dans la chambre voisine, l'enfant hurlait. Elle savait que l'homme le lui reprocherait. Il va te tuer maintenant. C'est plus fort que lui, comme quelqu'un qui s'est aventuré sur une glace mince. Certain de pouvoir rebrousser chemin quand il veut, il ne risque rien tant qu'il peut rebrousser chemin. Dans le même temps, elle pensait avec terreur qu'il allait s'arrêter bientôt. Bien sûr qu'il allait s'arrêter. Ça n'avait jamais duré aussi longtemps. Il ne l'avait jamais gravement blessé jusque-là. Il était entendu entre non qu'il ne la blesserait jamais gravement. Il l'en menacerait, mais il ne le ferait pas pourtant. Il l'étranglait. Il lui fourrait les billets dans la bouche, essayait de les lui enfoncer dans sa gorge. Jamais il n'avait rien fait de pareil. C'était entièrement nouveau. Rebecca ne pouvait plus respirer. Elle étouffait. Elle se débattit avec désespoir, une peur panique dans les veines. Juive, garce, putain. Il était furieux. Une chaleur terrible émanait de son corps. Et tout ça durerait 40 minutes. Elle penserait ensuite qu'elle n'avait pas perdu connaissance. Pourtant, Tignor la secouait. « Eh, tu n'as rien, connasse. Réveille-toi !» Il la mit sur ses pieds, essaya de la faire tenir debout, bien que lui-même vacilla comme un homme sur le pont mouvant d'un navire. « Arrête ! Arrête de faire semblant !» Les genoux de Rebecca ne la soutenaient pas. Un espoir la traversa, rapide comme l'éclair. Si elle tombait à genoux, Tignor aurait enfin pitié d'elle et la laisserait s'éloigner en rampant comme un chien battu. Et dans le même instant, lui sembla que c'était déjà arrivé. Elle se cacherait sous l'escalier, elle se cacherait dans la cave, elle se réfugierait dans la citerne. Elle ne témoignerait jamais contre lui, même s'il la tuait, jamais. Mais ce n'était pas arrivé. Elle était toujours dans la pièce, une pièce éclairée, pas la cave. À travers le voile qu'elle avait devant les yeux, elle la voyait. Le lit bien fait, avec son kilt que Rebecca, avec sa précision de femme de chambre, n'avait pas encore rabattu pour la nuit. Les tapis circulaires, couleur d'or foncé, achetés en solde, $2,98. Les immortels sur la commode. Réveille-toi, grognait Tignor. Ouvre les yeux. Je vais te casser la gueule si. Il la secouait, la cognait contre un mur. Les vitres vibraient, quelque chose était tombé, roulé sur le sol comme un flot d'écume. Rebecca se serait affaissée comme une poupée de chiffon, mais l'homme la tenait, la frappait au visage. Tu voulais me tenir tête, hein ? Me faire honte devant mon fils. Il la traîna sur le lit. Les habits de Rebecca étaient en pièces et étrangement mouillés. Sa chemise avait été déchirée. Voir ses seins allait rendre Tignor furieux. Il fallait qu'elle les cache. Sa peau nue de femme allait l'exaspérer. Tignor la jeta sur le lit, ouvrit son pantalon à tâtons. « Connasse !» disait-il. « C'était sa faute ! Ses pantalons n'étaient plus repassés correctement dans la ferme. Tignor s'était perdu ! Il avait perdu sa virilité et sa dignité. Ses chemises étaient mal repassées, pleines de plis au col. Un manchot aveugle s'en serait mieux tiré. Et Nailey était là. Il s'accrochait aux jambes de papa en lui hurlant d'arrêter. « Petit connard! Rebecca savait maintenant, elle avait fait une terrible erreur, la pire erreur qu'une mère puisse faire. Elle avait mis son enfant en danger par stupidité et par imprudence. Rebecca supplia l'homme qui la chevauchait de ne pas frapper Naïli, de la frapper elle, mais pas lui. Elle, bébé, foutu pleurnichard! Tignor prit l'enfant par le bras et le jeta contre le mur. Naïli cessa de pleurer. Il resta immobile sur le sol là où il était tombé. Et sur le lit, Rebecca était immobile, elle aussi. Cette émission, guidée par Joyce Carol Oates, a été préparée par Perrine Malinge. La prise de son a été effectuée par Anne-Laure Cochet et mixée par Marie Potier. Elle a été réalisée par Stéphane Ronxin. À bientôt.